Bien, bonsoir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ce soir, on a un thème important, libre-échange. Alors, c'est un mot qui est chargé de beaucoup de sens, en fait. Mais pour ceux, c'est pas votre cas sans doute, mais pour ceux qui l'entendent pas très souvent, libre-échange, ça évoque quelque chose de plutôt sympathique, la liberté d'échanger. Qui est contre? Et il y a le mot de liberté, ou en tout cas le libre, ça évoque la liberté. En effet, je crois que tout le monde souhaite pouvoir échanger avec ses voisins, avec d'autres. Le problème, c'est que cette expression, je dirais que c'est une sorte d'abord de supercherie idéologique. Parce que qui dit liberté d'échanger devrait impliquer aussi que. Eh bien, on doit être libre aussi de refuser d'échanger, par exemple. Et on va voir que c'est absolument pas le cas dans la logique dans laquelle on est. Donc, où est cette liberté? En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le libre-échange d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir, le libre-échange tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est promu aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec le libre-échange tel qu'il a pu exister au XVIIIe et XIXe siècle. Quand on lit des ouvrages, pour ceux d'entre vous, même sans ceux qui n'ont pas fait d'études d'économie, mais qui ont fait un peu d'histoire, eh bien, on parlait des traités de libre-échange, on parlait du libre-échange comme étant en effet un courant de pensée, ou en tout cas une approche économique qui était plutôt favorable au développement. Pour beaucoup, qui dit libre-échange dit développement, développement des échanges, développement de l'économie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers théoriciens du libre-échange, et le plus connu d'entre eux, peut-être en avez-vous entendu parler, qui est souvent invoqué encore aujourd'hui, c'est David Ricardo, hein, qui est un des chefs de file de ce qu'on appelle quelquefois les économistes classiques, l'école classique anglaise, avait développé une approche théorique très subtile, qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs, où il avait montré, une démonstration assez brillante, hein, que tous les pays gagnent à l'échange, quel que soit finalement leur niveau de développement et quelle que soit aussi leur capacité. C'est-à-dire qu'un pays qui est purement agricole peut gagner à l'échange avec un pays qui est très industrialisé, par exemple. Eh bien, le pays purement agricole, très agricole, aura intérêt à se spécialiser dans la production de céréales, de vin, etc. Le pays industriel aura intérêt à se spécialiser là où il a les connaissances, les compétences les meilleures, dans les produits industriels. Et que tout le monde gagne à l'échange. Et c'est ce dogme aujourd'hui qui est encore là, qui est très présent dans les médias, chez les hommes politiques, chez les défenseurs du libre-échange, c'est de dire que finalement, c'est gagnant-gagnant. C'est une stratégie, comme on dirait dans le langage moderne, gagnant-gagnant. Or, en fait, on va voir que c'est malheureusement, c'est faux. C'est pour ça que je dis que c'est une supercherie intellectuelle. Non pas tant que Ricardo ait tort, parce que, comme tout théoricien, comme toute théorie, hein, elle est fondée sur des hypothèses. Or, ce qu'on constate, c'est que les hypothèses de cette théorie sont complètement invalidées aujourd'hui. L'idée de Ricardo et la vision du monde qu'il avait à l'époque, hein, on était au 18e, 19e siècle, au 19e siècle, c'était de dire les pays, en fait, échangent des marchandises entre eux, hein, des biens agricoles, des biens industriels. Il y a une mobilité des marchandises, mais il n'y a pas une mobilité de ce que les économistes appellent les facteurs de production. Les facteurs de production sont immobiles. C'est quoi les facteurs de production dans le jargon des économistes? C'est le travail et le capital. Or aujourd'hui, l'une de ces hypothèses est complètement remise en cause par le développement de la mondialisation, de ce qu'on appelle aussi la globalisation financière, c'est que les capitaux circulent librement, et probablement d'ailleurs ce sont eux qui circulent le plus, beaucoup plus vite et en quantité bien plus importante que les marchandises qui sont échangées sur la planète. Et que donc, à partir du moment où les capitaux circulent librement, eh bien, ça change tout. Ça change tout parce que les échanges et l'organisation de l'économie mondiale se déroulent dans des conditions tout à fait différentes. Cette mobilité internationale des capitaux, qui est responsable des délocalisations, par exemple, du fait qu'une usine, une entreprise peut décider si elle n'est pas satisfaite des conditions des travailleurs, du niveau des salaires, de la fiscalité, etc., dans un pays peut déplacer son usine ailleurs, voire à l'autre bout du monde. Et plus généralement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on reviendra peut-être dans la discussion si vous le souhaitez sur ce point, pour moi il est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, cette mobilité du capital, qui est un élément du libre-échange, car quand les économistes ou les élites, les dirigeants d'entreprise, aujourd'hui parlent de libre-échange, ce n'est pas uniquement les marchandises, c'est aussi la liberté de circulation des capitaux, eh bien, c'est traduit par le fait que ça met en concurrence non seulement les économies, c'est ce que faisait le libre-échange traditionnel du 19e siècle, mais plus profondément, ça met en concurrence les travailleurs, les salariés de toutes les régions du monde entre eux. Et donc aujourd'hui, la mondialisation d'aujourd'hui, on appelle souvent la mondialisation néolibérale, organisée sur la liberté totale de circulation des marchandises, des services et des capitaux, eh bien c'est justement cette mondialisation qui met en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs indiens ou chinois, ou les travailleurs latino-américains, ou les travailleurs africains par exemple. Et c'est ça qui est un élément clé de cette mondialisation. Alors je reviendrai tout à l'heure sur ses conséquences, mais je crois que c'est, vous voyez que le libre-échange a pris une extension considérable et que souvent, à tort, quand on pense au libre-échange, on se réfère aux approches théoriques, aux visions qu'on avait au 19e siècle, on échangeait essentiellement des marchandises, c'est ce que postulait Ricardo, mais en fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. On a une mobilité, non seulement des marchandises évidemment, mais aussi des capitaux. Ensuite, l'autre idée très importante, c'est que le libre-échange d'aujourd'hui, je l'appellerais pour le distinguer du libre-échange classique, nous l'appelons le libre-échange généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une phase où l'objectif des entreprises multinationales, des gouvernements qui jouent ce jeu, des organisations internationales comme l'OMC, c'est précisément de promouvoir un libre-échange absolument général. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un libre-échange généralisé, plus précisément? Eh bien, et là, on va prendre le cas de l'OMC. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a été créée en 1994, dans le cadre de ce qu'on appelle les accords de Marrakech, est une institution, comme vous le savez, qui a pour fonction d'organiser les échanges précisément sous le principe du libre-échange généralisé, c'est-à-dire de supprimer, comme le disent, et je lis là l'expression hein, qui est importante, supprimer tous les obstacles tarifaires et ce qui est encore plus important, non tarifaires à la libre circulation des marchandises. Alors pourquoi cette expression tarifaire et non tarifaire est très importante? Eh bien parce que l'OMC ne se contente pas de dire abaissez vos frontières douanières. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà au début du XXe siècle, par exemple, ou au lendemain de la guerre, ou au XIXe siècle, quand il y avait des accords de libre-échange. Mais l'OMC va beaucoup plus loin. Elle dit, il faut absolument organiser une concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire faire en sorte qu'on supprime tous les obstacles ou tous les facteurs qui fausseraient la concurrence. Et par exemple, eh bien, quand un gouvernement, prenons le gouvernement français, conclut un accord de libéralisation concernant par exemple les secteurs de l'éducation, ben, ça veut dire que ce n'est pas encore le cas pour le moment tout à fait, mais ça pourrait venir un jour. Hein. Eh bien, si c'est le cas, ou la santé, ça veut dire que le gouvernement s'engage à supprimer tout ce qui pourrait fausser la concurrence, et par exemple, toutes les aides publiques, toutes les subventions qu'il pourrait donner. Et du coup, ça veut dire que l'éducation, qu'elle soit faite par l'État ou par des entreprises privées, doit fonctionner exactement selon les mêmes critères, avec des financements comparables, pour ne pas fausser la concurrence. Et donc, l'OMC, si vous voulez, la logique du libre-échange généralisé impulsée par l'OMC, va beaucoup, beaucoup plus loin que les phases antérieures de libéralisation des échanges. C'est ça qu'il faut voir, et c'est ça qui nous paraît extrêmement dangereux, parce qu'en fait, ça a des conséquences tout à fait importantes. Alors,